Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début évidemment à suivre Eva Rock pour son zapping du lendemain spécial cinéma et Bertrand Chameroy pour son écran de veille spécial famille. Notre invité, le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, c'est lui qui accueille les gens, les stars en haut des marches. Et là, il va nous présenter son livre autobiographique, le titre Cinéma, non, Judoka. Et Angèle Châtelier va nous dresser son portrait musical. Et puis, dans nos indispensables, un petit recueil d'histoires petites et passionnantes. Nicolas Carreau nous en dira plus. Et une sélection de films sur les arts martiaux par Marjorie Adelson. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Ça va Eva ?
Ça va très bien.
Je l'ai vu en arrivant dans ce studio, vous avez une belle énergie.
Ouais. Ouais.
Bertrand Chameroy, bonjour.
Bonjour Philippe.
Il a une énergie toute pourrie.
Ah mais c'est votre écran de veille Bertrand, vous m'avez l'air, pardon de le dire, vous m'avez l'air un peu fatigué.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Les valises que j'ai sous les yeux ? Oui, je suis en excédent bagage. Et alors, vous êtes chez EasyJet ? Non, c'est pas possible ça. Écoutez Philippe, j'ai la tête farcie de toutes ces infos là qui tournent en boucle sur le Covid, je n'en peux plus. Alors de temps en temps... j'offre une pause à mon cerveau. Et pour cela, quoi de mieux que la télé-réalité ? Un véritable spa pour les neurones, un massage californien pour le cervelet. On ne pense à rien, eux non plus, et on se sent bien. Hier, j'ai regardé TFX, qui proposait comme chaque jour, en fin d'après-midi, un nouveau numéro de Maman est célèbre, un programme qui, comme son nom l'indique, s'intéresse à des mamans...
célèbre.
Perdu, influenceuse. Ah, il y avait un piège avec un premier mensonge dès le générique et cette mention qui indique « Pour la première fois, elles nous révèlent leur vie de star ». C'est complètement faux, elles en sont à leur 14e télé-réalité et racontent leur vie minute par minute sur les réseaux, donc ce n'est pas la première fois. Dans ce programme, les mamans issues de la télé-réalité dévoilent le quotidien de leurs enfants, des enfants, à l'image de leurs parents avec un caractère de télé-réalité. Voilà, maman a coupé qu'ils finiront dans la saison 42 des Marseillais à je sais pas où. Tiens, bah, à propos de géographie, d'après vous, où habitent ces mamans célèbres, sachant qu'elles font de la télé-réalité ? Je vous le donne en mille, indice, ce n'est pas Melun.
T'as grandi depuis qu'on est à Dubaï ?
À Dubaï, évidemment, sinon ce ne serait pas de la vraie télé-réalité. Alors, pour être tout à fait honnête, tous les couples ne sont pas installés à Dubaï. Certains vivent en Calabre, d'autres en région parisienne. C'est le cas d'Hilary et Giovanni.
On a une très belle maison, on est très heureux ici, hein, Milo. Mais malheureusement, on va devoir quitter la maison.
Pourquoi, papa ? Pourquoi on quitte la maison ?
Par ailleurs, à Dubaï.
On va payer moins d'impôts et on part à Dubaï. C'est fou, ils sont tous attirés par Dubaï. Dubaï, c'est l'équivalent d'un lampadaire pour les moustiques avec les candidats de télé-réalité. Alors, les personnes que vous venez d'entendre, ce sont Hilary et Giovanni, d'heureux parents, qui nous ont révélé hier une tranche de vie vraiment trop choupie.
Milo, on va prendre le bain ? Perle ? On va prendre le bain ? Aujourd'hui, petite nouveauté, c'est que Milo prend le bain avec petite Perle.
Trop mignon, le frère et la sœur qui prennent leur premier bain ensemble, c'est chou ça Eva. Mmh. Oui, mais je ne vous ai pas tout dit, Perle n'est pas un bébé.
On est sort le petit chien.
Et quand il la regarde.
Mais t'imagines, pour Milo, c'est super bien d'avoir un petit chien.
Surtout, il comprend que Perle, c'est comme lui.
Eh oui, un bébé, c'est comme un chien. Mais mieux, parce qu'un chien, mieux qu'un chien, on n'a pas besoin de le sortir, il porte des couches, le bébé. Enfin, non, j'exagère, il ne met pas son enfant au même niveau que le chien.
Petite Perle, c'est ma princesse, Hilary le sait, je prends soin d'elle, mais vraiment, comme Milo, même plus que Milo, des fois, c'est abusé.
Eh oui, un bébé, c'est pas comme un chien, puisque Giovanni prend plus soin du chien que du bébé.
Mon Dieu.
Après, un gamin, c'est quoi ? Tu lui files trois croquettes et il est content. Hein. Alors, si vous aimez les familles en or, Maman est célèbre, c'est du lundi au vendredi à 17h sur TFX.
Ça fait vraiment envie. Merci beaucoup Bertrand et Eva, votre zapping du lendemain.
Mais je suis effarée, moi.
Mais pareil, vous avez craqué pour une soirée thématique proposée par Arte et là vous la recommandez.
Oui, parce que comment ne pas craquer quand une chaîne programme une soirée spéciale effectivement sur un des cinéastes que je préfère, en l'occurrence Claude Sauté, mort il y a 21 ans déjà. Alors à 20h55, dans l'ambiance enfumée et bruyante d'une brasserie chère au réalisateur, Camille, alias Emmanuel Béart, affronte Stéphane incarné par Daniel Auteuil.
Mais si c'était un jeu, il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait me baiser. Vous auriez été un salaud, mais au moins c'est dans la vie.
Camille, arrêtez.
Mais là, c'est rien. Vous n'êtes rien. Ça vous gêne qu'on nous regarde ? Faut pas, mon vieux, si ça les amuse.
Un cœur en hiver, ou l'histoire d'une violoniste amoureuse d'un homme qui ne l'aime pas. Un film où la musique est un personnage à part entière et qui évoque la confusion des sentiments, la passion, la mélancolie. Des thèmes récurrents chez Claude Sauté, comme vous pourrez le découvrir dans un portrait qui lui est consacré à 22h40 et qui débute comme ça.
J'étais un enfant timide, donc je ne savais pas m'exprimer, même maintenant j'ai du mal. Et quand on est timide, on voit mieux les visages des autres. Donc on a un don d'observation naturel. Et quand on est adulte, tout ce qu'on a emmagasiné ressort. Je ne sais pas par quel processus.
Mais par le cinéma peut-être, parce que le cinéma devient son langage. Il commence par tourner avec Ventura, deux films. On est dans les années 60, c'est un échec. Sauté préfère alors écrire pour les autres. Et puis une rencontre bouleverse sa vie, Romy Schneider. Pour elle, il redevient réalisateur, il lui offre les choses de la vie. Sauté trouve son style, des cafés enfumés, de grandes maisons familiales, des petites entreprises. Et puis des sujets qui traversent le temps, des couples à bout de souffle et la fugacité du bonheur. Il filme la France des années 70 et 80, soigne ses acteurs comme Patrick Devers.
Sauté, il filme entre les lignes, il filme des sentiments, il filme, il y a peut-être des dialogues dans les scénarios, il y a peut-être des actions, mais ce qui intéresse Sauté, c'est les mensonges, c'est les sentiments des gens, c'est pourquoi ils disent ça, c'est pas ce qu'ils disent, c'est pourquoi ils le disent.
La mort de Romy Schneider puis celle de Patrick Devers 6 semaines plus tard vont anéantir Claude Sauté. Il attendra longtemps avant de reprendre goût au cinéma, avant de nous offrir surtout 3 grands films, Quelques jours avec moi, Un cœur en hiver, donc avec la musique de Ravel. Et puis Nelly et Monsieur Arnaud, dans lequel Michel Serrault incarne un homme qui tente de mettre un peu d'ordre dans son existence alors qu'il est à la fin de sa vie. Portrait en filigrane évidemment de Claude Sauté. Soirée merveilleuse donc qui vous attend sur Arte dès 20h55.
Merci beaucoup Eva Roch, merci beaucoup Bertrand Chamerois qu'on retrouve demain 7h40 chez Mathieu Béliard, La Touche Âme évidemment. Dans un instant, notre invité Thierry Frémaux, mais d'abord musique avec Céleste.
Europe 1 Culture Média.
Love is bad. Love is bad. Love is bad. Glass full, so I did, and I saw you.
Love is back, c'était Céleste sur Europe 1. Dans un instant, le délégué festival du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, pour Judoka, c'est son livre autobiographique.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Thierry Frémaux.
Bonjour.
Thierry Frémaux qui a le masque du Festival de Cannes au sens propre du terme. Vous avez un masque anti-Covid avec Cannes Festival. Vous êtes le délégué donc, de ce festival. Vous êtes la personne qui accueille les stars en haut des marches, directeur de l'Institut Lumière à Lyon. Il est encore question de cinéma. Et vous venez de publier une sorte d'autoportrait. Ça s'appelle Judoka. C'est publié chez Stock. C'est pas une façon de parler. Vous êtes réellement judoka. Ceinture noire, quatrième dan, ai-je découvert. Vous avez remis le kimono après avoir arrêté. Vous en faites encore ou vous en faites plus du judo?
J'en fais... symboliquement, on en fait toujours. J'ai toujours mon kimono, ma ceinture. Après, j'ai le corps qui est peut-être plus vraiment adapté à un sport qui est quand même assez exigeant.
Voilà, symboliquement, j'ai des copains qui ont arrêté de fumer. Rapide portrait de vous, c'est vous qui l'écrivez comme ça. Je possède une belle collection de raretés de Blaise Sandrard. J'ai accueilli Julia Roberts en haut des marches. Je suis copain avec Jean-Michel Aulias. Je possède un tracteur Massey Ferguson et un vélo look carbone. Mais j'ai laissé tomber le judo. C'est absolument hallucinant, la liste qu'on découvre au fil des pages, à vous de lire, de tous ceux qui ont fait du judo. Peter Sellers, le cinéaste, Laetitia Casta, Mick Jagger, Vincent Lindon, le cuisinier Thierry Marx, l'astronaute Thomas Pesquet ou encore Vladimir Poutine. Qu'est-ce que vous avez en commun avec Poutine?
Ça, je ne sais pas, mais je l'ai vu sur Internet. On voit des Poutine mettre le kimono. Il est aussi hockeyeur, mais c'est un véritable judoka. Alors, je dis dans le livre qu'évidemment, il y a d'autres sports qui peuvent s'enorgueillir de personnages un peu moins controversés que Vladimir Poutine. Mais le judo a été très populaire en Russie. Il y avait même une sorte de dérivé de ce sport qui s'appelait le sambo. Et les Russes étaient un peu, disons, les gens qui pensaient beaucoup à la victoire et moins au style.
Ouais.
Quand les Français, comme en rugby, il y avait le French flair. Et en judo, un peu comme en tennis, la différence entre un Federer ou un Djokovic, il y a des histoires de style aussi, il y a des histoires techniques.
Je veux dire le sens de ma question, parce que vous l'expliquez au fil des pages, le judo c'est l'école de la modestie, de l'humilité, ce qui ne semble pas être les caractéristiques premières de Vladimir Poutine. Le livre démarre très fort, à front renversé, je vous lis. Dans ce monde-là, tout commence par une chute, et ce n'est pas un effet de style. Moi j'ai fait un peu de judo quand j'étais petit pendant une dizaine d'années.
Oui, je vais vous mettre dans le livre.
Mais j'avais pas le niveau, je ne suis pas arrivé jusqu'à la ceinture noire. La première chose qu'on nous apprend, c'est à tomber, à chuter.
Oui, c'est-à-dire que, et sur le plan physique, pour pas se faire mal, on va tomber beaucoup quand on fait du judo, on va faire tomber beaucoup, on appelle ça une projection, et tomber on appelle ça une chute, et donc c'est la première des choses qu'on vous apprend, afin de préserver évidemment votre corps, et puis symboliquement, c'est aussi une certaine façon de se dire que se faire projeter, perdre, c'est pas une défaite.
Ça vous a aidé à traverser le Covid? Pardon de ce raccourci un petit peu facile, mais là on y est, puisque le Festival de Cannes a été annulé l'an passé.
Ça m'a aidé dans la vie en général, et en effet, l'an dernier, au mois de mai, on se faisait reprocher de prétendument s'obstiner à vouloir faire Cannes. Et c'était pas ça, c'était tant qu'il était possible d'imaginer pouvoir faire le Festival de Cannes, on a joué notre chance. Quand il s'est avéré que c'était impossible, on s'est plié aux décisions des pouvoirs publics.
Et on en parlera en fin d'émission. On vous a dit, il est hors de question qu'il y ait l'année 2021 sans le Festival de Cannes. Vous racontez également votre enfance dans le quartier populaire des Minguettes. Mais populaire, en fait, c'était une volonté politique de votre père. Vos parents n'étaient pas communistes et votre famille avait largement les moyens d'habiter ailleurs. Mais il a choisi, presque par militantisme social, d'habiter les Minguettes.
Oui, il y avait ça. Militantisme social, je crois que c'est le mot plus que militantisme politique. Il y avait cette idée de ces belles cités radieuses qui poussaient un peu partout.
C'était radieux à l'époque. Parce que quand on voit ce que sont devenus les Minguettes, je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, c'est l'un des quartiers où on a le moins envie d'habiter quand même.
Ouais, moi j'y serais encore si j'étais pas obligé d'habiter près des gares. Mais non, mes frères et sœurs sont encore là-bas. C'est notre quartier. Mais il est clair que habiter là-bas dans les années 70, après que la France ait fermé ses propres ghettos, ses bidonvilles. Bon, il y avait donc ça, c'était une banlieue ouvrière, il y avait les usines Berliet, les usines de la SNCF, et il fallait évidemment loger les gens qui venaient habiter là. Dans des logements pas chers, mais tout à fait somptueux. Et il y avait quelque chose de très collectif, y compris sur le plan social, de mixité, aussi de nationalité, qui était assez génial. Et puis après, dans les années 80, là, tout est parti, je suis sûr, et il n'y a pas que moi qui le dis, en vrille, et on en arrive là où nous en sommes aujourd'hui, avec, pas seulement là-bas, un peu partout, des choses qu'il va falloir corriger, sinon ça va mal se terminer.
Alors je dois dire qu'il y a aussi de l'anecdote dans ce livre, des anecdotes sur Tarantino. Juste un mot, parce que je suis très curieux, Jean-Luc Godard qui vous écrit une lettre, qu'il termine ainsi, un ami calmant, Il vous écrit quoi dans sa lettre, Godard ?
Il envoie souvent des petits dessins, il envoie souvent de la peinture, et il fait beaucoup de jeux de mots, amicalement.
Ouais.
Et voilà, il vient d'avoir 90 ans, et on échange parfois des emails, et soudainement, vous lui envoyez quelque chose, il ne vous répond pas, puis d'un seul coup, 3 mois plus tard, il répond, il est à son bureau, c'est toujours très émouvant.
J'aime beaucoup cette formule, d'un seul coup, 3 mois plus tard, on dirait le début d'un film de Luis Buñuel. On va parler de musique avec vous, votre portrait musical, il est signé Angèle Châtelier, c'est dans un instant dans Culture Média.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, qui publie un récit, une sorte d'autobiographie, s'appelle Judoka chez Stock, et Thierry Frémaux, musique. Cette musique que vous connaissez bien, c'est la musique de la Montée des Marches, le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns. Je vous présente Angèle Châtelier qui va dresser votre portrait musical.
Bonjour.
Petite question Thierry Frémaux, vous aimez encore cette musique ou à force de l'avoir tellement, tellement entendue, elle vous sort par les oreilles ?
Non, c'est le contraire. Plus on l'entend et plus on l'aime.
Pareil, mais moi j'ai pas fait toutes les Montées des Marches que vous avez toutes faites. Angèle, c'est à vous.
Alors Thierry Frémaux, vous avez une histoire intime et très particulière avec Barbara qui remonte à votre enfance, là où vous êtes né et où vous avez grandi, Saint-Marcellin dans l'Isère. C'est cette ville que Barbara nous raconte dans sa chanson Mon Enfance.
J'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffées sous mes pas, les voix du passé qui nous hantent. Reflet le son et le glas, et je me suis couchée sous l'arbre, c'était les mêmes odeurs, et j'ai laissé couler mes pleurs, mes pleurs.
Alors les souvenirs que Barbara en a ne sont pas des plus joyeux, et pour cause, c'est là qu'elle a été cachée avec sa famille à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que ça vous fait à vous quand vous y retournez ?
Ben, j'y retourne beaucoup. Alors moi, je suis dans une petite ville qui s'appelle Tulin-Fur, juste à côté. Et je fais beaucoup de vélo et je vais souvent là-bas, à Saint-Marcellin. Et je ne pense qu'à elle. Elle décrit très bien cette région où la reine de la région, c'est la noix. Et elle parle des noix de septembre. Et contrairement à elle, qui en effet avait peut-être... elle n'avait pas de la douleur de par rapport à cette ville, mais la douleur de ce que, comme vous le dites, ça lui rappelait. Et elle dit, il ne faut pas trop aller visiter ses souvenirs d'enfance. Et moi, je pense que c'est le contraire, il faut y aller.
C'est un peu le contraire. Alors, votre vie musicale, Thierry Frémaux, est divisée en deux. On va d'abord s'attarder sur vos premières amours, la chanson française, qui vous a accompagné toute votre enfance. Georges Brassens, Léo Ferré, Jacques Brel. D'ailleurs, vous avez vu Léo Ferré en concert 23 fois.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on a.
23 fois Thierry Frémaux, d'abord vous avez compté, et ensuite pourquoi autant ?
Parce que la passion, c'est plus qu'une passion. Oui, il venait à Lyon chaque année, parfois deux fois, deux concerts par an. Je venais ici en banlieue parisienne l'écouter chaque fois que je pouvais. J'adorais Léo Ferré et le poète, l'auteur, et puis aussi ses concerts qui étaient des moments très très particuliers. Lui seul, comme ça, dans le noir, qui se disputait avec le public et qui son dernier concert, c'était très beau, l'un de ses derniers concerts. Il avait dit, c'était à l'auditorium de Lyon, et il avait dit, voilà, c'est terminé, à la fin de cette chanson, n'applaudissez pas, je rentre en Italie. Et alors, il avait terminé, c'était avec le temps, dernière note, et on entend ses pas sur la scène, et quelqu'un tente d'applaudir, les autres lui font chut. Et on l'a accompagné comme ça, et pour un anarchiste, il est mort le 14 juillet, ce qui est quand même assez... pas mal.
Alors vous êtes aussi un grand fan de Bernard Lavilliers, qui est même devenu votre ami.
J'avais passé 10 ans à dormir en prison.
Ouais. Ce qui est assez rare, s'ils sont amis. Alors, parce que les tensions entre Lyon et Saint-Etienne, vraiment, c'est une performance.
Oui,
bravo Thierry Frémaux.
Et nous le disions, Thierry Frémaux, vous avez deux amours. Il y a la chanson française, donc, mais aussi le rock et surtout Bruce Springsteen. Un artiste qui vous transcende et avec qui vous avez une anecdote. Il paraît qu'il s'est passé quelque chose qui le concerne à Cannes. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Non, mais avec Antoine Decaune et avec Roche Dizem, autre grand fan de Bruce, j'essaye d'inviter Bruce Springsteen au jury. Et évidemment, il travaille beaucoup, donc c'est compliqué. Mais un jour, je l'ai rencontré, grâce à Antoine, et on a parlé de ça. Je lui ai fait une invitation, et il m'a dit d'accord. Mais il m'a pas dit quand. J'attends encore.
Alors, ce n'est pas pour rien, Thierry Frémaux, que votre livre s'appelle Judoka. Vous êtes quelqu'un de combatif. Bruce Springsteen, d'ailleurs, vous rend combatif, mais pas autant que Renaud.
Moi, mon avenir est sous le zinc d'un bistrot des plus cradingues, des bordels. Que j'ai mis mon flingue.
Alors, difficile voilà. Aussi de ne pas terminer ce portrait musical parce qu'il fait votre vie, vos journées, vos passions, le cinéma. Vous avez évidemment le goût des belles bandes originales de films, d'Ennio Morricone à l'œuvre de Piazzolla, qui habille un film que vous chérissez, Nos meilleures années. C'est Oblivion, donc la bande originale de Nos meilleures années.
Nos meilleures années, Antoine Janton me dit Marco Tullio Giordana, 2003. Mm-hmm. Réaction, ça vous touche autant, la musique de film? Vous êtes encore dans le film?
Oui, moi, quand je travaille, j'écoute beaucoup de musique de film. D'abord parce que les musiciens de film, qui, vous le savez, sont les trois auteurs d'un film. Il y a le réalisateur, il y a le scénariste et il y a le musicien, la qualité d'auteur. Et alors, à Cannes, on a 7 prix, il n'y a pas de prix pour la musique. Alors, ils essayent de nous convaincre et on veut respecter notre règle, notre tradition. Mais on le sait tous que le parfum dans la vie et la musique vous transportent dans le temps. Et les musiques de film vous transportent dans les films, vous y retournez.
Attendez, j'ai pas compris. Vous êtes en train de dire une chose et l'inverse. Vous dites que c'est très très important et on ne veut pas donner de prix. Pour quelle raison?
Non, parce que les règles sont comme ça. Non, parce que ça fait partie d'une petite bagarre amicale avec Alexandre Desplat, ouais. avec Gabriel Yaret, tous ces magnifiques musiciens de film. Ennio Morricone était un grand géant. Était un grand géant du niveau des grands musiciens tout court. Voilà.
Voilà pour la musique. On salue Alexandre Desplat qui nous écoute quand il est à Paris. Dans un instant, merci beaucoup Angèle Châtelier. On vous retrouve demain. Dans un instant, notre premier indispensable. On va parler littérature, même micro-fiction. Je fais court avec Nicolas Carreau. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes qui publie Judoka. C'est une sorte d'autobiographie. C'est chez Stock. Vous dites que le judo, c'est autour du judo, évidemment, une école de la modestie. Il y a des anecdotes. Page 173. Ça y va fort. Lundi 11 mars, 18h, je sors de l'editing room, même pas la salle de montage, de l'editing room de Quentin Tarantino sur Alta Vista Street à Los Angeles. Même là, je suis déjà impressionné et je me dis, dis donc, il se la pète pas un peu, Thierry Frémaux?
Non, quand j'avais écrit mon précédent livre qui s'appelait Sélection officielle, qui était mon journal, il y avait beaucoup de gens connus, mais je fréquente des gens connus. C'est-à-dire que mon métier, pas moi. Ouais. Et parmi les gens connus, il y a des gens qui deviennent des amis. Il y a des gens
je vais vous dire ce qui m'a vraiment étonné. Je blague évidemment que vous ne la pétez pas, c'est votre quotidien. Oui. Mais c'est que vous êtes dans la salle de montage avec Quentin Tarantino pour choisir les films. C'est comme si les jurés Goncourt étaient chez l'écrivain, sur sa table de travail, par-dessus son épaule. C'est ça qui m'a impressionné.
Oui, alors on a des relations très, très amicales avec Quentin. On est copains, quoi. Donc il n'avait pas fini, vous vous souvenez, il était au sprint, on n'était même pas sûr que le film soit prêt pour Cannes. Donc, du coup, j'avais rédigé ça, mais j'évoque ce film parce que c'est un film d'enfance. Et que comme je racontais ma propre enfance, au même moment, quand je rentrais à l'hôtel le soir, j'écrivais ce livre, je me suis dit, mais il m'encourage, il vient de faire ça, on a presque le même âge, et il vient de faire ça, lui, il vient de raconter son Los Angeles de 1969, et donc j'ai raison de raconter ma France des années 70.
Et alors, puisqu'on parle de se mettre par-dessus l'épaule, vous mettez vous-même par-dessus votre propre épaule, il y a une mise en abîme du livre, on est page 201, vous racontez votre discussion avec votre éditeur, avant que la rédaction de l'ouvrage ne soit totalement achevée, vous lui dites de quand même ne pas vouloir être sûr de parler de judo sur 300 pages. Je me dis pourquoi il raconte les cuisines? Et ça ne m'a pas déplu, mais je me suis demandé pourquoi vous faisiez ça.
Parce que le livre est aussi en effet le journal de sa propre fabrication, parce que il y a beaucoup de livres de boxe qui racontent des choses, des histoires formidables. Il y a beaucoup de livres de judo, mais c'est des livres de méthode. Mmh. Et moi, j'avais envie de parler de l'histoire. Et c'était compliqué. Alors, Manuel Carcassonne me disait, il faut que tu sois personnel. Je lui dis, mais le judo est un sport où on apprend le dévouement aux autres. C'est pour ça que j'ai mis en exergue la citation de Paul Auster qui dit, il faut que tu racontes ça, pas parce que tu es exceptionnel, mais parce que tu es comme tout le monde. Il disait ça à propos de ses propres mémoires, bien sûr.
Manuel Carcassonne, le patron des éditions Stock. Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour Philippe.
On reste dans la littérature et ce matin, vous voulez nous parler d'un génie, c'est votre terme, c'est comme ça que vous me l'avez présenté.
Un virtuose, si vous voulez, et particulièrement dans un genre, la micro-fiction.
Donc micro-fiction, des textes courts.
Et c'est ça, très court même, parfois une demi-page, parfois une, parfois deux, rarement plus de quatre, mais à chaque fois toute une histoire et parfois même toute une vie dans ces quelques lignes. Là, il s'agit de David Thomas, qui est un maître du genre, mort, les éditions de L'Olivier publient son nouveau recueil intitulé « Seul, entouré de chiens qui mordent ». C'est le titre d'une des histoires. Il y en a une centaine en tout. Je ne peux pas vraiment vous dire quel est le sujet du livre, puisque c'est la vie dans son ensemble. Ça peut être une histoire d'amour, une partie de pêche, l'histoire d'un gamin, d'un très vieux monsieur, d'une gentille dame, d'un misanthrope, un comptable, un homme qui a gagné au loto. Bref, on change à chaque histoire de décor et de personnage. Et souvent, la chute vous met par terre, justement. Vous qui aimez la chute, Thierry Frémaux. On vous donne à réfléchir, c'est simplement très beau ou très poétique. En fait, ce sont des instantanés, des photos, un moment, David Thomas.
Instantané, j'aime bien, parce que moi j'estime que ce que je fais, c'est de la photo. J'aime les photographes qui me racontent une petite histoire. Et moi, c'est exactement ce que je fais. Parce que moi, mon projet, il est de photographier une émotion, un sentiment. Pour ça, j'ai besoin de faire une mise en place. Quand vous voyez une photographie, par exemple, vous avez l'ensemble de l'image. Avec un texte, je ne peux pas faire une vue d'ensemble immédiate. Je suis donc obligé de faire une espèce de mise en place. Qui, quand, ou quoi, pourquoi, comment, vous voyez, qui va m'amener à ce côté photographique, en fin de texte, attraper ce que je veux attraper, c'est-à-dire saisir ce micro-moment, ce micro-instant que je veux attraper.
David Thomas, son recueil, ce n'est pas son premier.
Oh non, il y a aussi La patience des buffles sous la pluie, par exemple, au livre de poche, ou Le poids du monde est amour, qui donc lui est consacré à l'amour. Des textes tous différents, avec beaucoup de personnages, hétéros, gays, hommes, femmes, mais toutes ces histoires sont rassemblées en fonction de leur étape dans le processus amoureux.
Mais en fait, ce livre, il est composé comme une histoire d'amour. Qu'est-ce que c'est le parcours de l'amour ? C'est on est d'abord tout seul, on fait une rencontre, il y a le début d'histoire qui est merveilleux, il y a le quotidien qui s'installe. Ensuite, il y a éventuellement parfois des enfants, ou pas, mais bon, voilà. Et puis, on commence à soit se tromper, à soit s'engueuler ou soit s'emmerder. Et puis, on se sépare et on se retrouve seul. C'est comme une boucle. Donc là, ce livre est composé de cette façon-là, avec des textes qui parlent du célibat, de la rencontre. Mais chacun, à chaque fois, avec des personnages, il y a 100 textes, il y a 100 personnages.
Mais comme c'est court, là, on a envie d'avoir un extrait, on a envie de savoir à quoi ça ressemble.
Bien sûr. Alors, éloignez quand même les enfants. Ce texte-là s'appelle « La fin du début ».
Nous nous sommes rencontrés l'été dernier. Je crois que l'on peut affirmer sans en rajouter que nous nous sommes jetés l'un sur l'autre. Je n'avais jamais connu cela. Je crois que lui non plus. Une osmose parfaite, deux corps, deux êtres faits pour se rencontrer, pour se compléter, pour ne faire qu'un. Aucun homme n'a provoqué chez moi autant de désirs. Il m'a ouvert des portes, m'a fait passer sur d'autres rives. C'est comme si j'avais découvert le plaisir que je croyais pourtant avoir bien exploré. D'après ses dires, c'est réciproque, je le crois. Depuis cette nuit à Milan, nous avons fait l'amour tous les jours, parfois deux fois, parfois trois. Hier, pour la première fois en 261 jours, nous nous sommes endormis sans avoir fait l'amour. Ça y est, nous sommes un couple.
Pas mal. 37 secondes.
Ça. C'est 30... génial.
David Thomas, donc, son... David Thomas, il est français.
Il est français. Il,
est
français.
Il a un nom d'américain.
Oui,
David
mais alors,
Thomas,
c'est
mais David
intéressant
Thomas.
Parce que c'est ce qu'a dit Thierry aussi. Il était étonné d'entendre qu'il était français. On dit que c'est le nouveau Raymond Carver, en fait.
C'est ça.
Il a une écriture très américaine, effectivement. Mmh. Et vous verrez, c'est marrant. Il a beaucoup de lecteurs fidèles. David Thomas, c'est une sorte de. Les lecteurs de David Thomas, c'est une sorte de confrérie. On le fait découvrir à tout le monde dès qu'on le découvre. Moi, par exemple, j'ai 5 exemplaires de chaque en version poche chez moi et je les offre aux amis qui passent. C'est comme un paquet de bonbons. On le met dans sa poche, on s'en lit un ou deux de temps en temps.
Voilà. Puis j'avouais que vous venez de me l'offrir.
Puis j'avouais que vous ne m'avez jamais offert de livre ni à Marjorie Adelson.
Oh, c'est faux, Philippe.
C'est faux, évidemment. Merci, ça vous tente.
Ah ouais, beaucoup.
Ça me rappelle le Shortcut.
Oui, c'est ça. Et puis c'est une tradition de la littérature du quotidien, des petites choses.
Exactement.
Et en ce moment, c'est bien.
Shortcut, le film d'Altman, c'était d'après Carver, si je me souviens
d'après
bien.
Carver, voilà. Grand chef-d'œuvre.
Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Carreau. À très, très bientôt. Dans un instant, vous restez avec nous, évidemment, Thierry Frémaux. Notre deuxième indispensable, on va parler de films de kung-fu. On n'est pas très loin de votre univers, mais d'abord musique, Francis Cabrel.
Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel.
J'ai confié ma peine au peuple des fontaines pour qu'un jour tu reviennes te pendre à mon bras. Dimanche et semaine ne sont qu'une chaîne de ces jours gris qui n'en finissent pas. Des rues où je traîne toujours, toujours, toujours me reviennent. nous la scène. Rimbaud, Verlaine, rien ne m'en consolera. Simple comédienne, comme des dizaines d'amants maladroits. On gravait les mêmes stupides rengaines, les mêmes soupirs aux mêmes endroits. Qui comprennent, qui sachent où ça mène. Fontaine, dites-moi. Vous qui en avez tant écouté, vous qui ne sauriez pas mentir, est-ce qu'elles savent pardonner ces belles pour qui l'on respire? Les avez-vous vu s'approcher, pencher sur vos reflets saphir, dire qu'on peut tout recommencer, chercher bien dans vos souvenirs. J'ai confié ma peine au peuple des fontaines. Un jour me reviennent le bruit de tes pas. Je donnerai tout Göttingen, toutes les Suzanne de Cohen, pour ce jour béni où tu me reviendras. Je donnerai tout Göttingen, Suzanne de Cohen, pour ce jour béni où tu me reviendras.
Peuple des Fontaines, Francis Cabrel sur Europe 1. Dans un instant, notre deuxième indispensable avec Marjorie Adelson qui va nous faire découvrir sa sélection ciné sur mesure. C'est du kung-fu, on va tout vous dire, pour Thierry Frémaux qui signe judoka.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Judoka, c'est le titre du livre que sort Thierry Frémaux, une manière à lui de raconter sa vie. C'est pas tout à fait une autobiographie, mais quand même, il y a beaucoup de parallèles, de passerelles. On va parler de cinéma, on va parler d'art martial. Bonjour Marjorie Adelson.
Bonjour Philippe.
Et aujourd'hui, vous nous présentez une sélection VOD de films d'arts martiaux. Sélection qui commence par Opération Dragon, c'est sorti en 73, évidemment, c'est avec Bruce Lee, celui-ci je le connais.
Oui, c'est un film qui est devenu culte avant même d'être en salle, est-ce que vous savez pourquoi ?
Non.
Eh bien parce qu'en fait c'est le premier film hollywoodien de Bruce Lee, sauf qu'il est mort un mois avant sa sortie.
Voilà. Thierry Frémaux le savait, moi j'ignorais.
Bien sûr.
Bon, il fallait le dire. Ouais. Alors pour l'histoire, Bruce Lee est le professeur Lee, il enseigne les arts martiaux dans un temple Shaolin. Un soir il a une drôle de visite, un chef du renseignement britannique lui demande de participer à un tournoi d'arts martiaux sur une île mystérieuse. L'île est en fait détenue par Han, un trafiquant de drogue. Bruce Lee doit donc s'infiltrer sur place et récupérer des preuves pour le faire arrêter. Mais pas question de se lancer avant une petite visite chez son maître spirituel.
Je suis heureux de voir que ton talent a dépassé le niveau physique. Ta compétence a rejoint ta spiritualité. Quelle est la technique suprême que tu veux atteindre ?
N'avoir aucune technique.
Bravo !
Alors on est à la croisée du cinéma asiatique et de Hollywood, c'est une sorte de James Bond ponctué de leçons de sagesse et de jolis torses musclés, il faut le dire. Pas besoin d'être initié à ce genre de film pour apprécier. On se laisse emporter par Bruce Lee qui est absolument magnétique et par les scènes de combat, notamment la scène finale. On est dans une salle remplie de miroirs et c'est un ballet de coups de poing et coups de griffes. Rassurez-vous, en plus, la violence est souvent hors champ, donc on peut le regarder sans souci avec des pré-ados. C'est un film qui a bien vieilli, Opération Dragon sur la Cinéthèque.
Commentaire, Thierry Frémaux.
Non, oui, c'est un très beau film. C'est le film, en effet, c'est un film coproduit par la Warner.
Et la fin, la scène dont vous parlez, c'est évidemment une citation hommage à la scène des miroirs à la fin du film d'Orson Welles et la Dame de Shanghai. Et il y a John Saxon, Jim Kelly, il y avait plein de champions dans le... Et Bruce Lee était au-dessus de tout ça, avec ce petit corps et cet air un peu désabusé. Enfin, c'est formidable.
Marjorie, le deuxième film que vous avez choisi, c'est le dessin animé Kung Fu Panda. Celui-ci aussi, je le connais. Disponible désormais sur Netflix.
Oui, c'est un classique, hein, un film familial pour initier même les plus petit à la philosophie du kung-fu. Alors je vous rappelle l'histoire, Po est un panda, il rêve de devenir un maître du kung-fu, sauf qu'il est grassouillé et très maladroit. Un jour pourtant, sur un malentendu, il est nommé dragon guerrier. C'est donc à lui de défendre la vallée contre un redoutable léopard des neiges. Mais avant ça, il y a du boulot.
L'élu se doit d'abord de maîtriser le plus haut niveau de kung-fu, ce qui est à l'évidence impossible si cet élu s'avère être quelqu'un comme toi.
Comment ça, comme moi?
Oui, regarde-toi. Tu as les fesses flasques, les bras mous.
Il y a des trucs sensibles dans les parties molles. Hein.
Alors, on est dans un récit initiatique qui rend hommage au film asiatique. Chaque animal a son propre style de combat et une personnalité bien trempée. Il y a tous les ingrédients pour un film réuni, un panda attachant auquel les enfants peuvent s'identifier, des gags efficaces, un très beau graphisme et une jolie morale que je vous laisse découvrir, Kung Fu Panda sur Netflix.
Et Thierry Frémaux me dit, pendant qu'on entendait l'extrait, il me dit, on l'a passé à Cannes.
On a beaucoup montré des films d'animation et toute l'usine DreamWorks de l'époque, Jeffrey Katzenberg, venait nous montrer leurs films chaque année.
Et alors le dernier film que vous avez choisi, Marjorie, c'est The Assassin, disponible en VOD sur MyCanal, film en compétition à Cannes en 2015.
Oui, il avait obtenu le prix de la mise en scène, c'est un film envoûtant. Alors on est au 9e siècle dans la Chine impériale, Lin Yang est élevée par une nonne qui lui a appris en secret les arts martiaux. Elle est donc devenue une véritable guerrière, elle manie le sabre comme personne. Sauf qu'un jour, la nonne se dit « Tiens, tiens, et si je testais sa loyauté ?» Lin Yang va donc devoir tuer un gouverneur rebelle. Problème, le gouverneur en question est son cousin et son amour d'enfance. Alors ça parle pas beaucoup et il n'y a pas de version française malheureusement. Je vous propose donc d'écouter un court extrait en mandarin. Je vous resitue un petit peu. Yin Yang vient s'excuser auprès de sa nonne après une tentative ratée pour tuer le cousin et la nonne l'engueule. Voilà, c'est un film d'une grâce absolue. On est vraiment dans l'anti-Hollywood. Il ne faut pas s'attendre à un film de sabre et d'action. C'est plutôt contemplatif. Il y a des paysages chinois magnifiques, filmés comme des tableaux, avec une histoire captivante, celle d'un conflit entre passion amoureuse et devoir à accomplir. C'est presque du Shakespeare, où Xiao Shen rend le combat extrêmement poétique, The Assassin sur MyCanal.
Vous en avez le souvenir vif, Thierry Frémaux, puisqu'il était à Cannes.
Très vif, en compétition à Cannes, mais vous avez tout dit, c'est un film, un grand chef-d'œuvre. Je citerai The Last Samurai avec Tom Cruise,
oui.
Qui est aussi un film américain, hollywoodien, mais sur les rapports entre l'Amérique et le Japon, à l'époque où le Japon s'ouvre dans l'ère Meiji, qui va aussi provoquer finalement l'invention du judo. Mais c'est aussi un très beau film sur l'âme asiatique et japonaise en l'occurrence.
Merci beaucoup Marjorie Adelson et Thierry Frémaux pour ces indispensables. Quel chroniqueur de luxe on a en la personne de Thierry Frémaux. Merci pour cette quatrième reco. Dernière partie de l'émission Culture Média, tout de suite après ça.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie de Thierry Frémaux qui signe Judoka chez Stock, une manière de raconter sa vie, ce qu'il a commencé par le judo avant de s'intéresser et même de se passionner pour le cinéma. Comparé au kung-fu, il y a peu de films consacrés au judo.
Oui, il y en a peu parce que c'est pas un sport extraordinairement aussi graphique et aussi spectaculaire que le kung-fu. On était un peu jaloux, nous, judoka de Bruce Lee,
ben oui,
qui avait entraîné à sa suite toute une génération vers les salles de kung-fu et de karaté. Il y a quand même, j'en parle, il y a un chapitre consacré au premier film du grand Kurosawa qui s'appelle La légende du grand judo, enfin qui s'appelle en japonais Sugata Sanshiro, qui était l'un des élèves du créateur du judo. Et il en a fait un film tiré d'un roman, et c'est un très très beau film qu'il faut absolument qu'on restaure, qu'on fasse connaître et qu'on montre.
Et j'ai également appris grâce à vous d'où vient peut-être, très certainement, le personnage de Maître Yoda dans Star Wars.
Oui, on n'est pas sûr, hein, mais je raconte ça parce que c'est la légende aussi à l'intérieur de la communauté du cinéma. Il y a un producteur-distributeur japonais qui s'appelle Tatsumi Yoda, qu'on appelle Tom Yoda. Et ce Yoda-là serait le Yoda de Star Wars, entre autres l'une des inspirations de George Lucas dans les années 70, qui fréquentait cet homme à Tokyo.
D'où Maître Yoda. Page 121, vous dites vous intéresser au cinéma et au sport parce qu'ils sont populaires. Or, ce n'est pas franchement du cinéma populaire qu'on projette à Cannes. Si, comment c'est plutôt des films d'auteur, des films ambitieux. Le film The Assassin dont parlait Marjorie, c'est pas Bienvenue chez les Ch'tis.
Non, mais Gallimard va publier des auteurs qui gagnent le prix Goncourt, puis il va publier des auteurs qui font des expériences formelles sur la littérature.
Je vais te poser la question différemment. Vous n'aimeriez pas proposer des films encore plus populaires ou des succès grand public? Vous allez me dire que c'est pas le rôle de Cannes que de voler au secours de la victoire.
Non, c'est pas le rôle de Cannes. Disons, quand à chances égales, on va plutôt aller vers un jeune auteur ou un pays lointain. Mais vous savez, hors norme de Nakache et Toledano est venu à Cannes, Le Grand Bain a commencé sa carrière glorieuse à Cannes. Non, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est des...
À Cannes, j'en ai plus le souvenir. En sélection officielle?
Oui, bien sûr. En sélection officielle, non, c'est pour ça. Il y a une image, évidemment, d'un Cannes, et on la revendique, hein, qui veut favoriser
élitiste.
Un cinéma comme art. Le cinéma, comme chacun sait, est aussi un commerce, et ce commerce-là est aussi honoré sur la croisette.
Alors, vous êtes le directeur de l'Institut Lumière à Lyon et surtout le délégué général, je vais y arriver, du Festival de Cannes. Dès le mois de janvier, vous avez annoncé la couleur, vous avez pris la décision de reporter le Festival de Cannes de mai à juillet. Pourquoi vous le reportez? On s'en doute. Pourquoi juillet? Parce qu'il y avait un creux de programmation?
Oui, c'est même pas un report. Nous avons décidé de faire Cannes début juillet, donc du 6 au 17 juillet. Il y a d'ailleurs une rumeur comme quoi on irait à l'automne. Non, on a annoncé...
Vous l'avez dit au Figaro, vous avez dit « Si la situation se détériore, l'automne devient notre nouveau joker ».
Oui, et si la situation se détériore à l'automne, etc., etc. C'est parce que si on ne met pas des « si », on est pris un peu parfois pour des gens inconscients. Non, Cannes aura lieu, on sent ça assez bien. Évidemment, comme tous mes collègues, nous attendons avec beaucoup de prudence, de respect et de compréhension la réouverture des lieux culturels. On sent quand même que ça bouge un petit peu. Oui. Les musées, les théâtres, les cinémas.
Et puis le vaccin qui arrive.
Et l'arrivée du vaccin et des beaux jours.
Ce qui est un bon espoir. Je voudrais qu'on finisse sur une touche joyeuse. Vous racontez plein d'histoires, plein d'anecdotes. Je ne peux pas tout citer ici, des mots d'auteur, etc. Et j'adore une phrase. Tous les gens qui ont envie d'aller voir un psy devraient d'abord consulter. Ça, c'est de Goldwyn, le fondateur de la métro Goldwyn-Mayer. Je veux que vous racontiez l'histoire de la salle de projection privée du patron de la Columbia dans les années 40, Harry Cohn.
Oui, il avait une salle dont les fauteuils grinçaient exprès. Il dit quand les fauteuils grincent pendant la projection, c'est que les gens se tournent. S'ils se tournent, c'est qu'ils s'ennuient. S'ils s'ennuient, c'est qu'il faut couper.
Et il faut refaire le montage. Nos fauteuils n'ont pas grincé ici. On était ravis de vous avoir pendant ces 2 heures, Thierry Frémaux. Enfin, 2 heures d'émission et 1 heure de Culture Média. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Je le rappelle, Judoka, c'est chez Stock. C'est signé Thierry Frémaux. Demain, Culture Média revient évidemment à 9h. Nouveau rendez-vous sur France 2, au bout de l'enquête présentée par Marie Drucker, qui révèle les secrets des plus grandes énigmes criminelles. Nous serons avec le rédac-chef de l'émission, et c'est l'ancien patron du Parisien, grand journaliste Stéphane Albou. Et puis gala d'humour, pas comme les autres, avec Paris Province. Paris-Lyon, c'est pour vous Thierry Frémaux. La ligne de TGV, un spectacle 100% en ligne. Nous serons avec les humoristes Maxime Gasteuil et Amel Chali. Dans un instant, une humoriste, Anne Romanoff, ça fait du bien. Je vous dis à demain.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.